les amoureux du jazz. Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Je vous emmène aujourd'hui autour de minuit avec Thelonious Monk, un grand pianiste atypique, étrange, caractériel et pourtant très attachant, presque fascinant. About Midnight, ce titre emblématique a suivi Thelonious Monk toute sa vie. Cette version de sa célébrissime composition a été enregistrée par le Marty Page Orchestra à Los Angeles le 27 juin 1958 avec Frank Rossolino au trombone et c'est Mel Torme qui l'interprète.
Begins to tell round midnight, round midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad. Round midnight, memories always start. Round midnight, haven't got the heart to stand those memories. When my heart is still knows it too. When some quarrel we had needs mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're out of my arms and I'm out of my mind. Let our love take wing some midnight round midnight. Let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound. I want to run and hide from the blues when old midnight comes around. It hurts me deep inside when I think how I lost the love I found round midnight.
Joachim Ernst Behrendt, le célèbre critique allemand, analyse dans son grand livre du jazz aux éditions du Rocher les années 40 et l'avènement du bebop. Lorsqu'un style ou un mode de jeu devient trop commercial, l'évolution se poursuit souvent en jazz dans la direction opposée. Un groupe de musiciens qui avaient quelque chose de nouveau à dire se retrouvèrent engagés dans une réaction saine, quoique pas toujours délibérée, à la mode générale du swing. Cette nouvelle musique se développa tout d'abord par à-coups à Kansas City, ensuite et surtout dans les pépinières de musiciens de Harlem, en particulier dans un endroit nommé le Minton's Playhouse, et une fois encore au début d'une décennie. Contrairement à la légende, cette musique ne s'épanouit pas à la suite de la rencontre d'un groupe de musiciens désireux de faire du neuf à tout prix, l'ancien n'étant plus attrayant. Non, le vieux style se portait toujours très bien, c'était toujours le plus grand commerce musical de tous les temps. Il n'est pas exact non plus que le nouveau style fût le résultat de l'effort conscient d'un groupe uni. Il se forma dans l'esprit et à travers l'instrument de musiciens différents, travaillant indépendamment les uns des autres en des lieux très divers. Il est vrai cependant que le Minton's devient le point focal au même titre que la Nouvelle-Orléans 40 ans auparavant. Il était absurde de la part de Jelly Roll Morton de prétendre avoir inventé le jazz. Il le serait tout autant d'affirmer que tel ou tel musicien des années 40 a inventé le jazz moderne. Le voici, Jelly Roll Morton. Bérent de poursuivre. Le nouveau style fut baptisé en définitive bebop, un terme qui semble traduire la vocalisation de l'intervalle musical tant apprécié à l'époque, la quinte diminuée. Le terme bebop naquit de manière parfaitement spontanée lorsque quelqu'un essaya de chanter ses sauts mélodiques. Telle est l'explication que fournit le trompette Dizzy Gillespie, l'un des représentants principaux du nouveau style, pour expliquer l'origine du terme. Il existe toutefois autant de théories relatives à l'origine de ce mot qu'à celle de la plupart des expressions de jazz. La quinte diminuée devint l'intervalle le plus important du bebop, ou du bop, ainsi qu'on ne tardera pas à le nommer. Auparavant, cette figure aurait été considérée comme erronée, ou tout au moins comme une mauvaise sonorité, bien qu'elle ait été utilisée dans les accords de passage ou pour produire des effets d'harmonique spéciaux chers à Duke Ellington et au pianiste Willie the Lion Smith dès les années 20. Mais elle caractérisait désormais tout un style, la base harmonique étroite des anciennes formes de jazz étant constamment élargie. Dans les 10 ou 12 années qui suivirent, la quinte diminuée allait devenir une blue note aussi courante que les 3e et 7e mineures du blues traditionnel. Les musiciens les plus importants qui se rassemblaient aux Mintons étaient Kenny Clarke, batterie, Charlie Christian, guitare, Dizzy Gillespie, trompette, ainsi que le sax alto Charlie Parker, et bien sûr Thelonious Monk au piano. Charlie Parker devait devenir le véritable génie du jazz moderne au même titre que Louis Armstrong était celui du jazz traditionnel. Oryx, avec une approche très originale, fait le portrait de l'artiste comme énigme. C'est le titre qu'il donne au chapitre consacré à Thelonious Monk dans son livre « Jazzmen d'aujourd'hui », édité par Buchet-Chastel le 30 septembre 1960. Certes, il est loin d'être tendre, il est même très critique, mais on sent très bien la véritable fascination qu'exerce Monk sur lui. Et maintenant, Thelonious Monk. Une salve d'applaudissements prématurés s'éteignit en mourant. Le présentateur, Charles Delaunay, sortit de scène. Lentement, les lourds rideaux de velours vert de la salle Pleyel glissèrent en tourbillonnant, dévoilant deux accompagnateurs effrayés et un tabouret de piano vide. Quelques secondes s'écoulèrent avant que n'apparût celui auquel s'adressaient les applaudissements de l'assistance. Il avança, à demi incliné. Grand noir, vêtu d'un ample complet bleu marine, chaussettes et chemise bleu ciel, allongeant le pas en direction du microphone. Lorsqu'il aperçut l'assistance, il eut un sourire vide, un sourire qui ne voulait rien dire. « Bonsoir tout le monde !» Il parlait un français correct, mais emprunté. « Je joue well, you need ?» Et puis, de nouveau, de longues enjambées mesurées, tandis qu'il s'en retournait vers le piano, il s'assit. Les doigts posés sur les touches, méditatif. tandis que le contrebassiste et le batteur français s'apprêtaient à attaquer. Alors, brusquement, il se leva et reprit son long voyage vers le microphone. « Je joue off minor », dit-il d'une voix détachée. Il ne donna pas d'explication pour ce changement de titre, pas même aux accompagnateurs. À cette dernière déclaration, l'auditoire, bien connu pour sa turbulence, fit entendre un murmure étouffé. Il se réinstalla au piano et commença à jouer l'air qu'il avait composé en 1940. Thelonious était enfin en action. Du moins, une certaine action. Ses doigts se déplaçaient avec raideur. Poignardait les touches au lieu de les effleurer. Les jambes ruaient sauvagement sous le piano, cherchant la pédale, la manquant, heurtant le plancher, le corps oscillait, les bras s'étiraient et se repliaient lorsqu'il cherchait quelques accords inhabituels. Sa voix grommelait sourdement lorsqu'il les trouvait. Le spectacle était plus fascinant que la musique. À la fin du second morceau, il se leva et pointa son index de la taille d'une banane en direction de Jean-Louis Vial, le jeune batteur. La tension des deux visages blancs montrait que les accompagnateurs avaient depuis longtemps renoncé à une exécution logique. Vial, encore étourdi par ce dernier choc, commença son solo à la batterie pour égayer la comédie qui se jouait au piano. Pendant l'improvisation, le doigt se déplia, les chaussettes bleu ciel et les chaussures beige trépignèrent frénétiquement et le lourd visage, grimaçant, toujours avec la même allégresse, se tourna vers l'assistance et la regarda fixement, comme pour lui demander si elle comprenait ce qui se passait. Quand Vial eut terminé son solo, Monk retourna au clavier et le jeu se fit encore plus heurté. Les jambes s'agitaient sauvagement, le grognement gagnait en ampleur. Il battait les accords avec son épaule à la Jelly Roll Morton et à un moment donné, il écrasa ses 10 doigts sur les touches. Autour de lui, les flashs explosaient en bouquets. La presse profane était particulièrement excitée par ce spectacle. Enfin, ce fut la dernière note et je ne pus m'empêcher de pousser un véritable soupir de soulagement. Là, au concert d'ouverture du Salon du Jazz de Paris en 1954, je venais d'entendre l'un des jazzmen importés d'Amérique. Pour cette occasion, jouer d'une manière qui décevait jusqu'au tréfonds mon attente perpétuelle d'une appréciation intelligente de la musique. Les ennemis du jazz avaient là quelque chose à se mettre sous la dent. Quelque chose dans la tradition du bon vieux vaudeville. Une parodie de tout ce qui pouvait paraître sain dans le jazz moderne. Et tout ça, de la part d'un musicien révéré comme l'un des premiers penseurs et l'un des premiers maîtres du mouvement moderne, celui que le légendaire Charlie Parker considérait comme le premier à avoir fait passer l'impératif de l'improvisation, de la mélodie à l'harmonie. Thank you. Around Midnight est un thème qui a inspiré bien sûr de très nombreux musiciens. À New York, le 16 décembre 1954, c'est Bud Powell qui l'enregistrait avec Percy Heath à la basse et Max Roach aux drums. Les paroles françaises sont de Claude Nougaro. Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro, enregistré et réalisé par Émilie Glory avec recherche de discographie dans les studios du Rocaz de Radio Grand Ciel.
Si tu me croises au tournant, je te...